Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
L'horreur du meurtre de Mireille Knoll en procès, deux hommes devant les assises pour avoir tué cette femme âgée de confession juive. L'un d'eux a pris la parole cet après-midi. Récit dans un instant.
La polémique sur les caméras de surveillance après des tirs contre des policiers hier soir dans le quartier de la Duchère à Lyon. Gérald Darmanin en veut davantage des caméras. Marine Le Pen joue la stature internationale à Budapest. Tapis rouge et rencontre au sommet avec le président ultra-conservateur Viktor Orban. Et puis, c'est plutôt inédit, les arbitres de foot font leur mea culpa. La vidéo, c'est bien, mais pas encore parfait.
Un mot de la tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Un mercredi souvent gris, mercredi matin, avant le retour du soleil l'après-midi. C'est une journée calme qui nous attend et je vous détaille tout ça à la fin du journal.
Europe 1.
Mireille Knoll avait échappé à la rafle du Veldiv à 85 ans. Elle a été tuée à coups de couteau chez elle un jour de mars 2018.
Oui, cette vieille dame qui souffrait de la maladie de Parkinson vivait dans un modeste appartement d'un quartier populaire parisien. Deux hommes comparaissent donc depuis ce matin devant les assises de Paris. Ils se rejettent la responsabilité du meurtre. Yacine Mioub, qui connaissait la victime depuis ses 8 ans, reconnaît tout de même une petite partie des faits, Gladys Lafitte.
Oui, face à la cour, l'accusé de 31 ans qui s'exprime clairement reconnaît l'incendie de l'appartement, mais pas le vol ni le meurtre. Mais c'est d'abord sur son parcours qu'il a longuement été interrogé. Une enfance marquée par l'alcoolisme de son père et par sa propre violence dirigée vers ses sœurs, qu'il tabasse, mais pas fort, détaille sa mère à la barre. Elle aussi est accusée. Tous deux expliquent ce passé violent par un viol qu'il subit à ses 12 ans à l'internat. Yacine Mioub s'essuie le front et remonte ses lunettes en permanence. Il est parfois tempéré par son avocat. Sans emploi et sans domicile fixe, il vit du RSA à l'époque des faits et a de gros problèmes d'alcool, dit-il. J'étais plus au bar qu'à la mosquée, j'ai dû boire plus de 1000 flasques et il n'y a pas eu tant de drame, minimise-t-il en posant son regard vers la famille de la victime. Debout dans le box, son ton devient défensif face à l'avalanche de questions du président, notamment lorsqu'il évoque son casier judiciaire rempli de condamnations pour vol, agression sexuelle ou encore pour de fausses alertes à la bombe dont il s'était fait une spécialité. C'est fait, je ne peux pas effacer, dit-il en guise d'explication. C'est sûr, appuie le président.
Gladys Lafitte au palais de justice de Paris pour Europe 1.
Depuis ce matin, des policiers casqués et armés patrouillent dans le quartier sensible de la Duchère à Lyon.
Oui, c'est là qu'hier soir, trois policiers de la BAC ont été visés par des tirs. Aucun n'a été blessé. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt l'absence de caméras de vidéosurveillance dans le quartier Océane Théard.
Oui, dès ce matin, pendant une conférence de presse consacrée à l'action du gouvernement en matière de sécurité, Gérald Darmanin déplore l'absence de ces caméras de surveillance dans le quartier de la Duchère. Il dit avoir envoyé aujourd'hui un courrier à ce propos au maire Grégory Doucet. Et ce n'est pas la première alerte, d'après le ministre de l'Intérieur.
Ça fait trois fois que je lui en parle en un an et demi, de remettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Nous appelons les maires de France, et singulièrement monsieur le maire de Lyon, de sortir d'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection.
En fin de matinée, Grégory Doucet contre-attaque. Le maire convoque la presse à l'hôtel de ville et l'affirme face au micro. 60 caméras en parfait état, d'après lui, sont déjà installées dans le quartier de la Duchère.
Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Le maillage de vidéosurveillance n'est donc pas à blâmer, d'après le maire de Lyon, dans le cas de cette attaque de trois policiers de la BAC. Sur demande du ministère de l'Intérieur, 70 policiers procèdent en ce moment à une opération de sécurisation. Ils surveillent depuis le début de l'après-midi le point de deal où a eu lieu la fusillade, l'un des plus importants du quartier de la Duchère.
Et quant au tireur, il est toujours activement recherché. Gérald Darmanin qui affirme que 7 nouvelles structures prenant l'islam radical seront dissoutes d'ici la fin de l'année, association ou lieu de culte. La mosquée d'Alonne dans la Sarthe est notamment fermée pour 6 mois.
Sécurité toujours, aussi étonnant que cela puisse paraître, et c'est d'ailleurs inquiétant, des milliers de bracelets électroniques utilisés pour les contrôles judiciaires sont tombés en panne hier.
Oui, la moitié dans toute la France, une panne qui a duré plus de 5 heures. Mais heureusement, aucun incident n'a été constaté, Wilfried De Villers.
Au total, cette panne de grande ampleur a concerné environ 7250 personnes placées sous surveillance électronique sur l'ensemble du territoire, selon des informations des sources au ministère de la Justice. À partir de 16h d'ici hier, les bracelets ont tout simplement cessé d'émettre leur position. 2 heures de coupure avant une reconnexion progressive vers 18h10. Mais il faudra attendre 21h50 pour une remise en service totale du système de surveillance. Le dysfonctionnement a également touché la moitié des bracelets anti-rapprochement, ce dispositif censé protéger les femmes victimes de violences en tenant leur ex-conjoint à distance. C'est la société Thales, chargée de la gestion du dispositif de surveillance, qui a donné l'alerte hier. Elle assure que les porteurs de bracelets n'avaient aucun moyen de savoir que ces derniers étaient hors service. Et vous le disiez, Hélène, aucun incident n'a été signalé. Par mesure de précaution, les dispositifs concernés par la panne sont en cours d'analyse pour vérifier si les porteurs ont bien respecté les conditions de leur surveillance judiciaire. Encore peu d'informations sur les raisons de ce problème technique. Plusieurs responsables de la société Thales doivent être entendus prochainement par la direction de l'administration pénitentiaire.
Merci Wilfried De Villers. Et puis si vous êtes abonné SFR, vous l'avez peut-être constaté, un incident a touché le réseau mobile et les accès Internet dans plusieurs grandes villes. Selon l'opérateur, le problème dont l'origine reste inconnue serait en passe d'être résolu.
Être parent, c'est aussi se poser des questions. Voilà le thème de la nouvelle campagne pour aider parents et futurs parents lorsque l'enfant paraît.
Oui, une campagne qui sera lancée le mois prochain dans les médias, sur les réseaux sociaux. Les 1000 premiers jours sont en effet cruciaux pour le développement des petits, Virginie Riva.
Oui, car ils sont fondamentaux pour l'enfant, son développement, une période pas toujours facile à appréhender pour les parents. 1000 jours, c'est l'addition des mois de grossesse plus les 2 premières années d'un enfant. Pour les pouvoirs publics, c'est là que sont posées les bases du bien-être, de l'apprentissage, des liens affectifs, pour toute leur vie, mais aussi pour les générations d'après, et de la santé, bien sûr. Voilà pourquoi c'est un enjeu de santé publique, qu'il s'agisse d'obésité, de risques cardiovasculaires, de violences subies ou commises plus tard, d'addictions qui pourront se développer. C'est là que se creusent également les inégalités de destin selon la classe sociale de l'enfant. Voilà pourquoi un site internet et une application sont lancés pour répondre au mieux aux parents. Des parents qui vont trop souvent sur les réseaux sociaux face à la multitude de questions qu'ils se posent. Le site propose donc des réponses scientifiques sur l'alimentation, mais aussi les perturbateurs endocriniens, l'allaitement, les violences éducatives. Et dès cette semaine, les futurs parents, dès le 4e mois de grossesse, recevront également un livret envoyé par leur CAF.
Merci Virginie Riva.
Allez, une petite pause et dans un instant, Marine Le Pen sur les terres de l'anti-européen Viktor Orban.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zelani. Hélène, un mois après Éric Zemmour, c'est donc au tour de Marine Le Pen de se rendre à Budapest pour rencontrer le président hongrois Viktor Orban.
Oui, deux personnalités d'extrême droite qui partagent les mêmes idées en matière de souveraineté et d'immigration. La présidente du RN a eu droit au tapis rouge, puis au déjeuner, avant une déclaration commune, un déplacement pour tenter de consolider sa posture de présidentiable, Alexandre Chauveau.
Oui, et le décor était symbolique. Deux drapeaux hongrois derrière Viktor Orban, deux drapeaux français derrière Marine Le Pen, et un détail qui n'en est pas un, l'absence de drapeau européen. La candidate du Rassemblement national a ensuite prononcé un discours d'une dizaine de minutes avec une cible principale, l'Union européenne, une organisation fédérale dirigée par un pouvoir centralisé, enivré de sa puissance, dit-elle, avant de louer la politique migratoire de Viktor Orban.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
Marine Le Pen a aussi beaucoup insisté sur le caractère politique de sa rencontre pour se démarquer d'Éric Zemmour, reçu un mois plus tôt à une conférence sur la démographie et en qualité d'intellectuel. Elle veut endosser le costume de présidentiable et s'imposer comme une des figures de l'alliance conservatrice qu'elle appelle de ses voeux au sein de l'Union européenne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron, encore une fois sur le terrain à Médan, précisément dans les Yvelines, où il vient d'inaugurer le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus.
Oui, un musée installé dans la maison d'Émile Zola, fervent défenseur du capitaine Dreyfus. L'occasion pour le président de lancer un appel aux plus jeunes pour qu'ils n'oublient pas.
Alors je le dis à tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et à toutes celles et ceux qui viendront dans cette maison, dans ce musée, n'oubliez rien de ces combats passés. Parce qu'ils vous le disent et vous répètent que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays comme notre République, ne sont pas des acquis. Ils sont le fruit de combats essentiels. Ils sont le résultat de vies de femmes et d'hommes sacrifiés, dans des guerres, mais parfois dans des combats oubliés, intimes, dans des batailles comme celles que Dreyfus et Zola ont menées. et toutes celles et ceux qui les ont accompagnés. Notre devoir, c'est de transmettre ces combats, mais avec eux, la force d'âme qu'il faut avoir pour les mener.
Et Emmanuel Macron, micro européen de Jacques Seret, et ce lieu de mémoire ouvre au public jeudi, c'est donc à Médan dans les Yvelines. Emmanuel Macron, dont on apprend ce soir qu'il va rencontrer Joe Biden à Rome vendredi. Les deux présidents se verront avant le sommet du G20, une première depuis l'affaire des sous-marins. Et puis, nouvelle inquiétude pour la santé de la reine d'Angleterre à 95 ans. Elle renonce à participer à la COP26 sur conseil de ses médecins. Christine Angot décroche le prix Médicis pour le voyage dans l'Est. Elle est également retenue parmi les quatre finalistes du prix Goncourt. Verdict le 3 novembre.
Quand des arbitres de foot font leur mea culpa, c'était ce matin lors d'un premier bilan de la saison de Ligue 1.
Oui, bilan de la direction technique de l'arbitrage français. Vous y étiez, Jean-François Pérez. Certes, il y a eu des situations litigieuses à plusieurs reprises, mais l'erreur est humaine et ils le reconnaissent.
Oui, et notamment autour d'un match qui a fait beaucoup jaser. PSG-Angers, il y a 10 jours. Victoire parisienne 2-1 avec deux buts très litigieux, validés par la VAR, l'arbitrage vidéo. Ce qui avait valu à Gérald Baticle, l'entraîneur angevin, cette sortie désabusée.
Ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice.
Fait plutôt rare, par la voix de leur patron Pascal Garibian, les arbitres avaient reconnu leurs erreurs ce soir-là. Ils l'ont répété ce matin, le bilan de l'arbitrage vidéo est bon, mais il est encore loin d'être parfait, avec environ une erreur sur trois non corrigée. Stéphane Lannoy, ancien arbitre, aujourd'hui en charge de la vidéo.
On comprend la frustration, l'agacement des joueurs, des spectateurs, des téléspectateurs. On a constaté depuis le début de la saison un certain nombre de manquements clairement identifiés. Ce n'est pas une copie blanche et propre aujourd'hui, mais on continue de travailler pour faire en sorte de répondre aux attentes du foot.
Dimanche soir, pour le trait médiatique OM-PSG, l'arbitrage de Benoît Bastien et de la VAR était scruté à la loupe. Mention très bien pour une direction nationale de l'arbitrage, désormais résolue à franchir une nouvelle étape historique, celle de diffuser tout ou partie des conversations des arbitres pendant les matchs.
Et Jean-François, puisqu'on parle foot, un match de qualification pour la Coupe du Monde féminine vient de se jouer entre la France et le Kazakhstan. Les Bleues continuent leur parcours sans faute. Elles l'ont facilement emporté 5-0, soit 5 victoires en 5 matchs.
Et pour la météo, une journée calme avec du grand soleil l'après-midi dans de nombreuses régions, Marlène Duret.
Oui, l'après-midi. Alors, il y a quelques régions quand même qui profiteront déjà du soleil le matin. Ce sera les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ensemble des Alpes, une partie de la Franche-Comté, puis aussi à l'ouest du Massif central, en tirant vers le Limousin, la Dordogne, encore l'Aveyron, partout ailleurs. La journée débute sous la grisaille avec des zones de brouillard parfois très étendues, des brouillards parfois assez épais. Il faut dire que ça peut réduire la visibilité, donc prudence évidemment au petit matin sur les routes. L'après-midi, le soleil va pouvoir s'imposer là où le temps était gris et brumeux, sauf du côté de la Bresse, du Val-de-Saône, de la vallée du Rhin. La dissipation semble plus laborieuse. Près de la frontière belge, les apparitions du soleil seront plutôt timides. Hein. Et puis, ciel variable du côté de la Corse avec des nuages qui peuvent déborder sur la Côte d'Azur. Les températures maximales peuvent plafonner entre 10 et 12 degrés sous les grisailles tenaces, a priori du côté de Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier dans le Jura ou encore en Alsace. Mais en général, elles atteindront 15 à 19 avec 17 à Paris, à Caen, à Bourges. On attend 18 à Guérande, 19 degrés à Montluçon et puis ça monte jusqu'à 20 à 23 au sud de la Garonne ainsi que dans le sud-est avec par exemple 22 degrés du côté de Marseille.
Merci beaucoup Marlène Duret pour cette météo. Merci à vous, Hélène Zélani. Rendez-vous demain à 19h pour l'info. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline. On évoquera le voyage de Marine Le Pen en Hongrie. On évoquera aussi les premières manifestations autour des conférences d'Éric Zemmour. En ce moment, c'est à Biarritz. Et puis aussi la violence à La Duchère, à Lyon, des policiers de la BAC pris pour cible par des armes automatiques. A tout de suite dans Punchline.